écho de ma commune et de mon canton. Nous sommes sur Radio Grand Ciel et Jean-Marie est notre technicien et André l'animateur. Voilà. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Philippe Bigier, député maire de Cloyes et qui est président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Alors ça fait ronflant, ça fait un beau titre, mais ça doit faire du boulot aussi. Alors qu'est-ce que fait un président de groupe ?
D'abord bonjour André, je suis ravi d'être une fois de plus sur Radio Grand Ciel. Et puis souhaiter à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs, une très belle année 2015. Et puis je sais que vous saurez faire vivre les échos qui viennent des communes, du canton, du département, de la région.
De la région aussi.
Et de la région. Donc pour répondre très directement à votre question. C'est vrai que j'ai cet honneur d'être président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. UDI, c'est l'Union de démocrates et indépendants. C'était l'UDF dans le temps, donc le centre 3 de la vie politique française, des hommes et des femmes qui viennent de la démocratie chrétienne, qui sont des libéraux pour certains, qui sont des radicaux, donc attachés à la laïcité pour d'autres. En tout cas, nous sommes pro-européens et nous sommes aussi une famille politique qui a pour... corpus, enfin bref, pour valeur, le fait que on soit à la fois, qu'on fasse confiance aux acteurs de territoire, donc nous ne sommes pas la décentralisation, faire en sorte que l'action se passe au plus proche de nos concitoyens, et ça c'est important, pas que ça soit toujours ce centralisme de Paris qui est compliqué. Et puis nous sommes une famille politique où, on aime l'initiative, on aime l'entreprise, on aime la liberté, que ce soit la liberté, bien sûr, d'écrire, la liberté de créer justement une entreprise, mais la liberté, d'ailleurs, cette valeur... qui a été tellement secouée ces dernières semaines avec ces attentats qu'on a connus, notamment la liberté d'expression, c'est celle que nous avons à la radio aujourd'hui. Et cette liberté, évidemment, qui passe par l'écriture. Et on a tous une pensée pour ces journalistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, le président d'un groupe à l'Assemblée nationale, nous sommes 6 présidents. J'ai un groupe politique dans lequel il y a 30 députés. Ces 30 députés...
Et ça va de combien à combien les groupes à l'Assemblée ?
Alors, il faut minimum 15 députés pour qu'il y ait un groupe parlementaire. Le groupe le plus nombreux, c'est naturellement celui du Parti socialiste, puisque la gauche est au pouvoir. Le groupe ensuite le plus nombreux, c'est celui de l'UMP. Nous sommes le troisième groupe le plus important. Il y a très précisément 25 députés de métropole dans le groupe. UDI. Et il y a 5 députés des territoires d'outre-mer, puisque nous avons... 2 députés de Nouvelle-Calédonie sur 2 et 3 députés polynésiens. Donc vous voyez que nous représentons bien la métropole et puis cette France des Outre-mer. Cette France d'Outre-mer qui est très riche. Je rappelle que la France a la 2e surface maritime, donc c'est important. Alors, un président de groupe, c'est un peu l'animateur d'un groupe. C'est celui qui, certes, préside, celui qui doit faire un discours lorsqu'il y a un moment particulièrement important. C'était le cas il y a quelques jours, au lendemain des attentats, lorsque le Premier ministre s'est exprimé, le président de l'Assemblée nationale et chacun des représentants des groupes. Mais c'est surtout celui qui anime le groupe, qui fait en sorte que chacun s'y sente bien, répartition du travail parlementaire. Je rappelle qu'il y a 6 commissions au Parlement, donc de veiller à ce que les députés soient bien présents en commission, soient bien présents dans l'hémicycle. Président du groupe, par exemple, j'étais au vœu du président Hollande.
C'est un petit peu le gendarme du groupe.
Ah, pas le gendarme, non, au contraire, on a celui qui est cajoleur, qui essaye de faire en sorte qu'il y ait le minimum de bobos. Bon, c'est avant tout un groupe comme celui-ci, c'est l'avantage, c'est que nous connaissons tous très bien. On a des réunions de travail tous les mardis matin à 10h15 pendant 1h30 où chacun peut discuter, où chacun peut apporter sa vision des choses. On a des vrais débats. Alors je les fais beaucoup travailler, c'est vrai, mais ils sont très présents. Je crois que c'est aussi une équipe de copains. On a la chance d'avoir 2 femmes de grande qualité dans ce groupe.
Il n'y a que
2 femmes, c'est pas beaucoup. On a beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire en vue d'augmenter la parité. On a 2 femmes qui nous viennent des Outre-mer, d'ailleurs, une qui est députée de Polynésie et une autre qui est députée de Nouméa, donc qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Et elles apportent également beaucoup. Donc, le président d'un groupe politique, c'est à la fois une mission de représentation, de coordination politique, pour faire en sorte qu'on a une expression sur les textes. Regardez, on a le texte sur la fin de vie qui va arriver dans quelques semaines. Eh bien là, on a eu un débat. On a reçu d'ailleurs Jean Leonetti, qui est l'auteur de ce nouveau texte, comme il l'avait fait le précédent en 2005. Là, c'est avec Alain Claës, qui est député maire de Poitiers et qui est socialiste. Et donc, il est venu devant le groupe. On a eu ce débat. Et ensuite, il y a la définition de la position du groupe politique.
Par rapport au
voilà,
débat.
C'est important. Ensuite, il y a une mission de représentation. Je disais tout à l'heure, je vais au du président de la République ou oui. à la presse. Je vais également à la conférence des présidents, c'est-à-dire tous les mardis matins à 10h, autour du président de l'Assemblée nationale pendant 3 quarts d'heure. On fixe l'agenda de la semaine. Alors, vous voyez, donc, mais c'est aussi des présidents de groupe, c'est une charge particulière. Il y a eu des attentats. Oui. Les attentats, c'est-à-dire que le président de la République a souhaité le lendemain que la classe politique soit informée, donc les représentants des partis politiques. Mmh. Et des groupes politiques, qu'ils appartiennent au Sénat ou qu'ils appartiennent à l'Assemblée, ont été invités à une réunion d'information, de discussion.
Au Sénat, il y a aussi des groupes politiques ?
Absolument, il y a des groupes politiques au Sénat. Donc on a nos jumeaux, si je pourrais m'exprimer ainsi, c'est l'Union centriste et l'UDI du Sénat, où ils sont plus nombreux que nous, ils sont 43 sénateurs, et donc c'est important, sur un peu plus de 340 sénateurs. Donc globalement, l'UDI, c'est une force politique avec les députés européens, les sénateurs et les députés de 80 parlementaires.
Ouais, c'est une force politique non négligeable.
Écoutez, on essaie de faire en sorte qu'elle ait le plus de place possible sur l'échiquier, de manière à ce que, eh bien, dans le cadre d'union de la droite et du centre, on puisse avoir à la fois l'équilibre, l'efficacité, cette liberté, et puis cet ancrage européen pour qu'on ait une Europe qui marche mieux, et non une Europe qui, quelquefois, nous entraîne là où on ne voudrait pas aller.
Eh bien, on va prendre une pause musicale. On va écouter un extrait de Tchaïkovski. Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton et de ma région, enfin, et d'un peu toute la France, puisque nous avons avec nous le président du groupe EDI à l'Assemblée nationale. Donc il nous a dit pendant cette première partie un peu quel était son rôle et de combien il était important. Et combien aussi bien le président de la République que je suppose le Premier ministre faisait appel au président de groupe pour travailler en harmonie.
Absolument, même si on ne pense pas toujours la même chose, même si on a des désaccords, il est important qu'on puisse se parler, c'est la moindre des choses. Vous savez, il y a tellement dans ce pays de choses à faire. Moi, je ne peux pas me satisfaire que la France, dont on disait que c'était la 5e puissance du monde, est passée à la 6e place. Je ne peux pas me satisfaire du fait que 25% des jeunes, une classe d'âge, soient au chômage. Pas me satisfaire du fait que les Français sont souvent dubitatifs sur leur avenir. Donc je crois qu'il faut savoir aussi essayer de travailler ensemble, même si ce n'est pas toujours simple. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, après tous ces attentats, j'étais de ceux qui ont dégagé un message fort d'unité, parce que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise, parce que la République, elle était ébranlée. La République, il faut qu'elle montre qu'elle est solide. Et la République, lorsque ça va mal, il faut plus de République. Si on veut faire en sorte que le communautarisme ne monte pas, il faut plus de laïcité. Et lorsque la République cède, eh bien c'est le communautarisme qui l'emporte. Et ça, je ne le veux pas pour mon pays.
Et puis le communautariste, l'extrême, c'est ça.
L'extrémisme, l'islam radical, par exemple. Ouais. Mais vous savez,
mais
tout
il peut avoir aussi du catholicisme radical.
Mais il y a eu, rappelez-vous, les guerres de religion. Ouais. On les a oubliées. Mais moi, je n'oublie pas. C'est bien de faire cette référence-là, surtout une émission de Radio Grand Ciel. Tous les radicalismes, d'où qu'ils viennent, c'est tous les extrémistes, d'où qu'ils viennent, toute la haine, toute la violence, d'où qu'elles viennent, c'est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens le gouvernement et la France. Parce que c'est pas nouveau, qui était en Afghanistan, et je soutiens la France qui est actuellement, vous savez, au Mali, qui est au Tchad, qui est au Niger. Et j'ai d'ailleurs accompagné le ministre de la Défense le 31 décembre dernier, qui est allé réveillonner avec les militaires. J'ai passé 3 jours avec lui, nous étions 12 parlementaires, il m'avait proposé de l'accompagner. Si je suis allé, c'est pour 2 raisons majeures. D'abord, dire merci, dire ma reconnaissance à ces militaires, ces hommes, ces femmes.
Qui risquent leur vie tous les jours.
Qui risquent leur vie tous les jours, qui sont généreux, qui sont professionnels, qui appartiennent à une vraie communauté de vie. J'ai vu la solidarité qui existait entre eux, les liens très forts. C'est vrai que quand vous partez 4 mois, 6 mois, loin de votre famille, loin des vôtres, loin de votre territoire, de vos racines, et que vous allez, comme nous sommes allés à Madama. Madama, c'est au nord Niger, à 20 kilomètres de la Libye. Imaginez, on est à un endroit, évidemment, en plein désert, à 650 km du premier village. Et on voyait les camions libyens arriver, et on savait que de l'autre côté de la frontière, à 20 km, il y avait des terroristes, les fameux Boko Haram qui détiennent ces jeunes filles. Vous savez, c'est très simple. Soit on est capable de faire en sorte d'endiguer, de faire en sorte d'arrêter ces terroristes fanatiques religieux, comme c'est le cas.
Qui se servent de la religion pour.
Qui
pour
se servent de la religion, mais qui sont au Mali. On a vu ce qui s'est passé, heureusement que la France est allée au Mali. Mais là, les terroristes sont en train de se développer en Libye, se multiplient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'État libyen. Mais de la même façon que ça se passe en Syrie et en Irak. Rappelez-vous, tous les chrétiens d'Orient qui ont été chassés, violentés, tués pour certains. Et soit on est capable, ces foyers terroristes, de faire en sorte qu'ils disparaissent. Il faut tarir les financements. Il ne faut pas hésiter à leur faire la guerre. Ces gens-là ont de l'argent. On estime que l'État islamique, c'est 30 milliards d'euros ou de dollars qu'ils ont. On estime que ces gens-là sont extrêmement armés. Et on estime aussi qu'il y a des pays qui les financent. Il faut tarir les financements. Il faut donc trouver des solutions. Et là, la France y est, mais la France est seule. La France est trop seule. Il faudrait que l'Europe soit présente. Or, l'Europe n'est pas présente.
Et elle est présente en parole, mais c'est tout.
Absolument. Mais c'est un enjeu mondial, cette lutte contre le terrorisme. Chacun doit le comprendre. Moi, j'étais impressionné de notre savoir-faire. J'ai vu des drones fonctionner. J'ai vu des colonnes de terroristes qu'on a pu neutraliser. Mais la France ne peut pas faire seule cet effort financier. Imaginez que dans le budget de la France, c'est tout ce que nous faisons à l'extérieur, ce qu'on appelle les OPEX. C'est un mot barbare, mais ça veut dire opération extérieure. C'est 1,2 milliard d'euros. Mais s'il y avait des pays d'Europe mobilisés avec leur technologie, avec leur savoir-faire, leur capacité d'innovation, parce que ne vous faites pas d'illusions, ils sont très bien armés en face. Ils sont très bien organisés.
Ils ont récupéré des armes dans des pays qui étaient bien armés, comme la Libye.
Dans les pays qui étaient bien armés, et puis ils achètent des armes parce qu'ils ont des filières de financement. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui s'interrogent, mais pourquoi on va là-bas ? Mais vous savez, je vais vous dire, on a été reçu par le président de la République du Niger. D'ailleurs, depuis, il y a 43 églises qui ont été, vous le savez, brûlées au Niger. Le président de la République du Niger nous a dit avec beaucoup d'émotion, heureusement que vous êtes là, les Français. Ne partez pas. Sinon, le terrorisme que nous connaissons, demain, vous le connaîtrez chez vous. Et voyez, ces propos étaient prémonitoires. Ces propos, ils datent du 2 janvier 2015.
D'accord. Donc, bien avant le...
Quelques jours avant les attentats contre Charlie Hebdo, contre ces policiers qui ont été tués comme des chiens dans les rues de Paris. Tout ça. Et puis, comme ces 4 personnes qui ont été tuées dans cette épicerie cachère à la République. Donc vous voyez que, vraiment, c'est un fléau, c'est la guerre contre le terrorisme. Vous savez, on a connu ces guerres, on va tous régulièrement au Monument aux Morts, parce qu'il y a eu cette grande guerre de la liberté, 39-45, il y a eu la guerre de 14-18, qu'ont fait nos ancêtres avec tous ces millions de morts qu'il y a eu. Moi, je ne veux pas que...
Pas qu'ils soient morts pour rien.
Non, ils ne sont pas morts pour rien, parce que globalement, c'était des guerres en Europe. Les pays d'Europe se faisaient la guerre. Mais l'Europe est venue, s'est construite. Elle s'est construite sur les cendres de cette guerre, sur le sang qui a coulé, sur toutes ces millions de personnes qui ont perdu la vie, tous ceux qui sont mutilés, tous ceux qui ont été marqués pour tout le reste de leur vie, toutes ces familles qui ont été endeuillées, ces familles qui ont perdu des membres de leur, qui ne sont pas revenus, mais que ces combats aient servi à quelque chose. On ne peut pas dire tout ça pour ça. Alors là, il y a des foyers. Ces foyers, ils existent, ces foyers terroristes, ces foyers islamiques. mais vous avez raison, d'autres extrémismes religieux. Eh bien, la communauté internationale. Moi, j'en appelle à la communauté internationale. Elle doit se mobiliser.
On peut est-ce pas. Que, est-ce que après ce qui s'est passé à Paris, est-ce que ça donne pas un coup de fouet quand même?
Ça donne un coup de fouet. Vous savez, j'étais dans la grande manifestation du dimanche à Paris, lorsque vous voyez côte à côte le président du Mali qui était au premier rang, le président de la République, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Vous aviez Gordon Brown, qui est donc, comme vous le savez, le premier ministre en Angleterre. Vous avez naturellement la chancelière Angela Merkel. Mais il y avait des chefs d'État européens.
Il y avait des chefs d'État d'Afrique
qui étaient là. Ça veut dire qu'une grande partie comme ça, en quatre jours, tout le monde s'est mobilisé. Mais ces chefs d'État, ils ont accompli un acte très fort. Les peuples, 4 millions de personnes sur le pavé parisien. À Châteaudun, il y avait plus de 2000 personnes. À Cloix, 400. À Bonneval, 1 millier. Ça veut dire que les gens ont dit, on ne peut pas laisser faire. Et ils ont dit, on ne peut pas laisser faire et on ne peut pas laisser déstabiliser cette République. On ne peut pas laisser les terroristes nous terroriser la vie au quotidien et abattre des citoyens comme des chiens. Ça n'est pas possible. Alors il y a un plan qui a été préparé par le gouvernement. Moi, je soutiens ce plan. Notamment, il y a des problèmes très graves, comme sur des écoutes téléphoniques. Oui, il faut plus de moyens. Je pense que les terroristes, il faut savoir où ils sont. Il faut les fichiers. Il faut tarir les financements. Il y a aussi autre chose qui est une situation grave. C'est l'affaire de la déchéance de la nationalité. Vous avez des personnes qui sont binationaux. Ça veut dire quoi, binationaux? Par exemple, des personnes qui peuvent être à la fois marocains et français. Ouais. Si quelqu'un qui est franco-marocain part faire le djihad au Yémen, par exemple, ou en Syrie, et revient, on sait que potentiellement, il peut tuer, au risque de perdre sa vie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ils sont prêts, eux, à s'immoler par le feu. Ils sont prêts à perdre la vie en étant des kamikazes. Eh bien, ces gens-là, moi, je suis favorable à ce qu'on leur retire la nationalité française.
D'ailleurs, le Conseil d'État a donné raison.
Le Conseil constitutionnel a donné raison. Mais il y a une autre question. C'est celle des gens qui, comme vous, comme moi, n'ont qu'une seule nationalité, qui sont français. Oui. Et qui vont faire le djihad. Eh bien, quand ils reviennent, ils sont nombreux. 1300. Et je vais vous faire une confidence. Sur les 1300, il y en a 30% qui sont des mineurs. Eh bien, est-ce que vous croyez qu'on pourra leur donner tous leurs droits civiques ou tous les droits sociaux? Ou par exemple de faire partie de la fonction publique? Moi, je suis favorable parce que ces gens-là, on leur retire une partie de leurs droits civiques et sociaux s'il est avéré, confirmé qu'ils ont fait le djihad et qu'ils sont potentiellement dangereux
en
France.
Et ça par jugement, bien sûr.
Mais bien sûr. Mais écoutez, mais quand vous gérez une société en France, vous êtes français, vous gérez une société commerciale, vous faites de l'abus de biens sociaux, vous escroquez les gens, en clair.
On va en prison.
Vous allez en prison, ou si vous n'allez pas en prison, vous êtes condamné par un tribunal. À minima, on vous retire souvent une partie de vos droits civiques. Et à des gens qui seraient susceptibles de tuer, on ne ferait pas ça. Au nom de quoi? Mais je pense que ce n'est pas des propos maximalistes que je tiens là. Moi, il faut dire à vos auditeurs que nous sommes menacés. Et que lorsqu'on est menacé, il ne faut pas spécialement avoir peur, il faut s'armer et se protéger. Donc, tout ce qui peut concourir au fait qu'on puisse améliorer la sécurité, la protection des personnes et des biens, ça doit être engagé sans angélisme. Par exemple, les fichiers. Vous savez, on est là, c'est très compliqué de voir tous les fichiers. Mais quoi? C'est compliqué de quoi? Quand vous allez au supermarché, que vous achetez telle marque de chocolat, telle marque de Coca-Cola, telle marque
ou
de yaourt, ou je ne sais quoi, eh bien, vous êtes tracé. On sait que vous aimez le chocolat au lait avec des noisettes. On sait que vous prenez telle lessive. Ça veut dire quoi? Là, on laisse faire. Et puis de l'autre côté, vous êtes un terroriste. Potentiellement, vous pouvez commettre des attentats sur un territoire. Et puis, au nom de je ne sais quelle liberté, vous ne seriez pas dans un fichier. Donc, vous voyez, et c'est là aussi, l'Europe aurait cette possibilité de travailler plus encore ensemble, en protégeant mieux ses frontières. L'Europe doit être capable de faire cela.
L'Europe de la sécurité, alors.
L'Europe de la... qui existe déjà, qui est insuffisante. Je pense à toutes ces centaines de personnes qui arrivent, comme vous le savez, de Lampedusa chaque année, qui arrivent donc des cornes de l'Afrique, de Libye d'ailleurs, et qui arrivent en Italie pour après venir en France. Mais on ne peut pas laisser cette immigration se produire ainsi. Vous savez, les réponses, c'est évidemment tous ces moyens de lutte contre le terrorisme. Il y a une deuxième réponse qui est importante. C'est à l'école. C'est à l'école qu'on doit apprendre ce que sont les religions. C'est à l'école qu'on doit apprendre ce que sont les valeurs de la République. C'est à l'école que l'on doit faire respecter la Marseillaise, le drapeau. C'est à l'école qu'on doit apprendre le respect aussi, tout simplement. Et puis, il y a un troisième chantier. Pas beaucoup n'en parlent. Et celui-ci, il me tient à cœur. C'est que tous ces pays où il y a de la pauvreté, où le terrorisme se développe, en Afrique par exemple. Mm-hmm. Ces gens-là, ils n'ont aucune perspective pour les 50 ans qui viennent. Il faut faire du développement local. Mmh. Il faut que les richesses, elles ne soient pas volées ou spoilées, mais que ces richesses soient aussi utilisées pour qu'ils puissent se développer, connaître une bonne évolution de leur niveau de vie, qu'ils puissent avoir des logements, qu'ils puissent avoir l'accès à la culture,
au
sport.
Qu'ils puissent manger à leur faim.
Et qu'ils puissent, évidemment, naturellement, manger à leur faim. Et donc ça, les grands programmes internationaux, notamment de l'eau, l'alimentation en eau, l'alimentation électrique. Et vous voyez, Jean-Louis Borloo, à qui j'ai succédé à l'Assemblée nationale, au groupe UDI, eh bien, elle vient de lancer une fondation il y a quelques semaines, justement pour faire en sorte que ces pays puissent avoir de l'éclairage. Mm-hmm. Ils n'ont pas tous d'électricité, puissent avoir de l'eau, qui sont vraiment les éléments de base, les éléments fondamentaux. Mm-hmm. Donc vous voyez qu'on a d'immenses chantiers, l'arsenal de répression, bien sûr, de protection, bien sûr, avec tous les moyens, en respectant la liberté, mais avec tous les moyens. La seconde chose indispensable, j'ai dit tout à l'heure, c'est que à l'école, parce qu'à l'école, sur le banc d'école, que vous soyez riche ou pas, vous êtes sur le banc d'école. Mmh. Et c'est là où aussi les enseignants, faut les remettre au cœur du sujet. Pas que les enseignants, la radio a un côté éducatif. Bref, chacun doit s'y mettre. Et puis la troisième chose, c'est ne pas expliquer aux gens qui habitent dans ces pays en voie de développement que c'est le nirvana en France, que c'est absolument formidable, qu'ils vont connaître un niveau de vie exceptionnel et ils sont sûrs d'avoir un boulot. Oui. Car ce n'est pas la vérité.
Mais c'est pour ça qu'il faut leur donner les moyens chez eux.
Absolument.
Ouais. Donc vous êtes allé au Mali aussi ?
Alors nous avons fait un voyage, nous sommes allés à N'Djamena, réveillons avec les militaires à N'Djamena, il y avait un peu plus de 1200 militaires, donc ça c'était un moment sympathique, de convivialité, et puis le lendemain nous sommes partis du Tchad pour aller à Madama, donc là c'est une base avancée dont je parlais tout à l'heure, où il y a 400 militaires français qui ont créé cette base, donc il y a une piste d'atterrissage pour les Hercules, les avions, qui ont un poste médicalement avancé, parce que c'est la route qui permet de passer de la Libye, traverse le Niger, et ensuite à droite sur le Tchad, ou à gauche elle part sur la République, sur le Nigeria et la République centrafricaine. Et bien donc il était important que cette zone-là soit sécurisée, parce qu'on sait que les terroristes passent par ce goulot d'étranglement, donc là on peut les arrêter.
On peut les empêcher de venir, du moins.
Nous sommes allés également à Niamey, voir le président de la République, passer en revue l'ensemble des troupes, voir le matériel qui est déployé, parce que la France a ses meilleurs atouts technologiques qui sont là-bas, avec les avions les plus performants, avec des drones, et puis voir la redoutable efficacité, les agences de renseignement. Donc nous avons fait 3 pays en 2 jours et demi, donc vous voyez, pas loin de 30 heures d'avion, 4-5 heures de sommeil par nuit, c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est comme effort par rapport à l'effort que font ces militaires. Donc on est allé les encourager, les soutenir et leur dire merci.
Et moi j'ai trouvé ça bien que c'est un peu tout groupe, que ce soit socialiste, UDI...
Ah oui, il y avait tous les groupes politiques étaient représentés, nous étions 6 députés, 6 sénateurs, qu'ils soient de gauche, du centre,
c'est,
ou de droite.
C'est un peu ce que les Français aimeraient bien, c'est qu'un peu plus tout le monde travaille ensemble pour la France.
Écoutez, je vais prendre un exemple concret, parce qu'il y a la fameuse loi Macron là, sur la croissance
on
et l'activité.
On va prendre une pause musicale, puis on parlera.
Oui, on vous en parlerait, mais moi j'essaie de voir comment, je parlais de la loi tout à l'heure après la pause, comment on peut essayer de faire des oppositions constructives.
Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on écoute Schumann, là, un extrait.
Votre radio chrétienne en Eure-et-Loire, c'est sur 107 FM à Châteaudun.
Vous savez qu'un texte qui fait beaucoup couler d'encre, c'est la fameuse loi Macron dite croissance et activité. Bon, c'est une loi, il y a 106 articles, donc c'est un texte un peu fourre-tout, donc il y a beaucoup de choses. Alors il y a ceux qui disent, c'est parfait, c'est formidable, la croissance est là, c'est pas vrai. Il y a ceux qui disent, parce que en disant que ce texte allait libérer complètement l'activité, ça n'est pas vrai. Il y a ceux qui disent, ah ben non, il y a des choses qui ne vont absolument pas, donc circuler, il n'y a rien à voir. Mmh. Et puis moi, je fais partie de ceux qui disent, ben écoutez, essayons de le voir à partir de cette loi, de ce matériau de départ, si oui ou non le gouvernement accepte de travailler un peu, de prendre des amendements, d'en modifier le contenu. Alors, on a passé beaucoup de temps, on a alors fait des auditions de toutes les professions concernées par cette loi. Ensuite, on a passé plus de 92 heures en commission, imaginez, du lundi au dimanche, non-stop. Ouais. Moi, j'ai fait 5 jours sur 7, c'était déjà beaucoup. Même le dimanche, vous voyez, toute la journée, de 10h du matin à 2h du matin, vous voyez, on parle de pas travailler le dimanche, vous voyez le législateur, hein. Les mêmes qui vous racontent, faut pas travailler le dimanche, travaillez tout le dimanche. Enfin, ça, c'est un petit détail. C'est un clin d'œil pour vos auditeurs. Et puis, donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont traités dedans. Pour les résumer, c'est la mobilité. En clair, plus d'autocars circulant entre nos villes. Moi, j'essaie de faire en sorte que les trains, par exemple les Paris-Châteaudun, qu'on appelle les TER, on puisse avoir de la concurrence entre la SNCF et une autre entreprise pour avoir un meilleur service. Je crois qu'on en a besoin. Voilà un point de divergence avec le gouvernement. Je veux arriver au fait qu'on puisse concurrencer la SNCF. Deuxième sujet important, c'est tout ce qui concerne les relations sociales, le code du travail. Je souhaiterais qu'on fasse sauter ces fameux seuils sociaux, vous savez, qui bloquent. Il y a des seuils à 10, à 20, à 50 dans les entreprises, et ça bloque l'embauche. Donc on a déposé là-dessus des propositions. On voudrait aussi une grande conférence sociale, parce qu'il faut absolument que le dialogue social existe dans ce pays. Ça a été encore un échec en fin de semaine dernière. Mmh. Et puis pour finir sur le droit du travail et tout ce code du travail qui est très compliqué... On voudrait que simplement que dans une entreprise, lorsqu'on se met d'accord sur un temps de travail, eh bien, ça évite de s'occuper de la loi qui a été votée à Paris des 35 heures. Vous voyez, donc libérer un peu l'économie. Il y a un troisième sujet, c'est les fameuses professions réglementées. Alors là, ils avaient tout faux au départ, ce gouvernement, en voulant nous expliquer qu'il fallait un avocat d'entreprise, qui serait même plus soumis au secret professionnel et serait subordonné à son employeur. Donc ça, ils l'ont abandonné. Ils voulaient réformer complètement l'ensemble des professions réglementées. Imaginez une chose. Complètement idiote, aberrante, c'était de dire qu'on allait avoir un tarif chez le notaire qu'on pouvait négocier. Quand vous avez le droit, vous ne négociez pas le tarif. Quand vous allez voir le médecin, vous payez votre consultation. Donc ça, j'espère qu'on va y arriver, parce que les travaux démarrent dans l'hémicycle la semaine prochaine. Donc ça, je me bats pour que ça s'arrête. En revanche, pour les jeunes notaires, pour les jeunes huissiers, pour les jeunes mandataires judiciaires, pour les jeunes commissaires priseurs, on va ouvrir un peu les vannes. Donc ça leur permettre un peu plus qu'ils accèdent au travail. Et puis, enfin, il y a donc ces professions réglementées, des choses qui sont en train d'évoluer. Si le gouvernement nous écoute, on pourra faire un peu de chemin. Et puis enfin, l'affaire du permis de conduire. Alors ça peut paraître un détail. Savez-vous combien de personnes attendent pour passer le permis de conduire en France ? 4 millions. Oh. Eh oui. Il y a des gens qui roulent sans permis. Mm-hmm. Il y a des jeunes, ça coûte très cher. Ils les passent une fois, deux fois, trois fois, des fois six fois, dix fois, quinze fois. Mm-hmm. Et donc, nous, on souhaite qu'on désengorge tout ça avec un système où on donne aux privés, mm-hmm. contrôlé, évidemment, habilité, contrôlé par l'État. Et là, il y a des vrais points de frottement avec ce gouvernement. Donc, on a d'ailleurs rencontré le ministre Macron, on lui a fait des propositions, vous voyez, qui ne sont pas des propositions politiciennes, qui ne sont pas des propositions de posture. Moi, je veux que ce pays respire un peu. Et puis enfin, on a tout un sujet sur lequel on a avancé, c'est le financement de l'économie pour des bourses régionales, pour améliorer l'accès au financement pour les entreprises. Et là-dessus, on a été entendu. Alors on verra si on est entendu. Eh bien, on votera positivement. Si on n'est pas entendu, on votera négativement.
Voilà, ben, je vous souhaite quand même bon courage puisque vous êtes encore bien au travail et c'est pas fini.
Nous démarrons lundi soir pour 14 jours la loi Macron. Que font les députés ? Ils travaillent un peu de temps en temps quand même.
Ceux qui sont présents, comme vous.
C'est vrai. Merci beaucoup.